Hi, this is Elvis Presley. I suppose you know I've got a lot of cars. When I was driving a truck, every time a big shiny car drove by, it started me sort of daydreaming. And the next day, well, a thing caught fire and burned up on the road.
With one hand, she steers. The other manipulates the gear shift. One foot operates the clutch, the other feeds the gas, and there you are. Just set the selector at drive, then step on the accelerator, and you're off. All shifting is automatic.
I sure appreciate you listening to Marcy Vicks Records. I'd like to thank all the disc jockeys for playing. Bye-bye.
Elvis receives no money whatsoever for his performance here tonight.
You're listening to Pastoral Mechanic.
Vous êtes bien quelque part entre France Culture et Fun Radio. Vous êtes bien sur la 90.8 de Campus Grenoble. C'est Pastoral Mécanique, votre émission qui pétarade sur les routes poussiéreuses de la country, du blues, du rock'n'roll, de la surf music. Et ce soir, eh bien, nous fêtons l'été. Et pour fêter l'été, eh bien, nous avons choisi un sport très estival, le surf. Une émission spéciale surf, mais pas le surf sur la mer qui ne se pratique que l'été. Le nôtre, notre surf, eh bien, il est intemporel. C'est la surf music. Même si dans notre région, eh bien, ce surf est plutôt abstrait. Nos invités de ce soir, ils ont essayé, à mon sens, sur le lac de Bourget, et ils se sont vite tournés vers la surf music, celle que, à mon avis, ils pratiquent beaucoup plus facilement, en tout cas avec énormément de talent. Donc ce soir, eh bien, nous allons vous noyer dans la réverb et le trémolo. Ça, vous le savez, c'est ce qu'on aime dans Pastoral Mécanique, c'est ce qu'on appelle aussi le twang. Ce son de guitare bien métallique, de basse qui sonne comme une guitare et de batterie qui imite le fracas des vagues de la mer. Et la surf music, c'est pas les Beach Boys, ça vous le savez aussi dans cette émission. Pour nous, la surf music, c'est de l'instro surf, la musique instrumentale par excellence, née lorsque le rock'n'roll est mort, et morte eh bien, lorsque la musique psychédélique, qui est bah, finalement pour qui elle a préparé le chemin également, donc quand cette musique psychédélique est apparue. Et ce soir, eh bien, nos invités, ils ont leur nom de groupe, ça ne sonne pas comme un nom propre, comme ça pourrait l'être pour d'autres groupes, mais vraiment comme une phrase, une injonction, comme un vœu. Ils s'appellent les Moms I'd Like to Surf, donc littéralement maman au pluriel, j'aimerais surfer, voilà, c'est... Il n'y a pas plus beau nom justement qu'une injonction comme ça pour exprimer tout simplement une attitude. Alors Dick Dale, on le sait, il est mort en 2019 et 2019 c'était aussi l'année où eux, les Moms I'd Like to Surf, eh bien ont sorti leur premier album. Dick Dale, lui, bah, il venait de très loin, il était californien. Et nous avec les Moms, bah, on est content puisqu'on a des vrais surfeurs dans nos contrées. Et donc eh bien, j'ai la joie d'accueillir dans nos studios et la grande Christina Fabiola.
Bonsoir.
Qui est la, bah, tout simplement bassiste ou guitare baritone?
Guitare baritone.
Guitare baritone, guitare bariton, voilà exactement. Et puis on a aussi John De Vito.
Bonsoir.
Hein, le nom à particule du groupe. Et lui, John.
Le noble.
Voilà, c'est celui qui imite Dick Dale, littéralement. Hein. Et puis, le troisième invité ce soir, le troisième du groupe, c'est Frankie Goodlord.
Tout à fait, bonsoir.
Hello, Frankie Goodlord.
Salut.
Voilà. Et puis le quatrième, il n'est pas là,
Hein ?
Non.
Il est, le quatrième n'est pas là, c'est le batteur, justement. Alors, il ne pourra pas nous imiter le bruit des vagues, malheureusement, ou ce qu'on appelle le pipeline, hein, dans le jargon surf. Alors, vous savez, dans l'émission, quand un invité ne vient pas, on a un jargon. On dit qu'il est parti faire du poney en chartreuse. Alors, ça, c'est bien, un ça. Private joke.
Ça lui va bien.
Parce que il y a eu un invité, c'est arrivé comme ça, qui était vraiment allé faire du poney en chartreuse. Après, il y a ma fille qui devait venir une fois dans l'émission, et l'après-midi elle avait vraiment fait du poney aussi. Donc on suppose que votre batteur est parti faire du poney en chartreuse, n'est-ce pas?
Absolument.
Alors les amis, je propose tout simplement qu'on débute les festivités avec un morceau de votre crew. Alors d'abord, on vous a fait venir en studio aujourd'hui, alors non pas parce que c'est la fête de la musique, parce que vous savez, dans Pastoral Mécanique ou sur A90.8 de Campus Grenoble, ou alors sur la Freies Radio Wüstewelle, parce que l'émission est également diffusée donc en Allemagne sur la Freies Radio Wüstewelle. Pour repréciser, parce que c'est la fête de la musique tous les jours, tout simplement, mais il y a une actualité avec vous, c'est cette fabuleuse compilation, la seconde du nom, dont on va parler tout à l'heure. Mais je vous propose, comme il fait chaud, de se raser la barbe, si vous voyez à quoi je fais allusion, et on va embrasser la barbe du viking, hein, Kiss the Viking Beard, ce soir, Pastoral Mécanique, avec en studio les Moms I'd Like to Surf. Entendu ce joli décay de la réverb à la fin du morceau, et ça, ça on l'entend dans tout morceau de surf qui se respecte, cette bonne réverb à ressort, cette technologie bien 60s.
Alors, vous l'avez entendu, ce morceau Kiss the Viking Bird, vous pouvez voir la vidéo sur YouTube où on voit que John John se rase à l'envers, c'est bien ça?
C'est tout à fait ça, ouais. Hein?
Donc en fait, on se rase et la barbe repousse. T'as dû utiliser le même rasoir que les ZZ Top, je pense. Hein? Pour ne...
Inception, quoi.
Exactement, et donc ça c'est finalement votre premier album à date, et vous aviez donc fait deux EP auparavant, ouais. Que vous aviez fait donc en 2014 et 2015, et puis ce Beach Control to Major Knob dont on vient d'entendre un premier extrait, lui est sorti donc en mars 2019 sur un label grec, Surf Cookie Records, yes, c'est bien ça,
c'est ça.
Alors pourquoi un label grec pour un disque fait par chez nous?
Parce que c'était facilement accessible, je pense. Quoi. C'est que, vu que ce label-là concentre quand même beaucoup de trucs du monde entier, on s'était dit qu'on allait essayer de postuler par à travers eux. C'était accessible par ça, quoi. Voilà, assez facilement. Quoi.
Voilà. Et puis eux, ils ont probablement la mer plus à proximité que nous.
Ouais, tout à fait. Quoi. Puis ils sortent quand même des très beaux disques de surf aussi. Le prochain Wave Charger sort dessus aussi, par exemple. Quoi. Donc il y a des très belles choses à écouter à travers ce label. Quoi.
Bah, et puis c'est vrai que avec la surf music, on est quand même sur une scène finalement assez spécifique. Alors c'est vrai que quand on en parle à des gens, même quand on leur parle de surf, ils pensent bien évidemment au premier au sport. Alors la surf music, qu'est-ce que c'est? Alors qui est-ce qui chante dans votre groupe? Bah, il n'y a pas de chanteur. Alors ceux qui pensent qu'il pourrait y avoir un chanteur qui connaissent un peu, bah, ils vont dire ça va être un peu les Beach Boys. Mais il n'y a pas de chanteur ou de chanteuse dans votre groupe.
Ouais, mais si, parce qu'en fait...
De temps en temps.
Non, en fait, c'est pas ça, c'est qu'ils voient... Donc Christina qui est dans le groupe, et il l'identifie automatiquement avec la chanteuse, quoi, en fin de compte, quoi. On voit un petit peu les habitudes des gens par rapport à ça, quoi.
Oui, ça c'est sûr. Voilà. Quand j'arrive quelque part, je suis la chanteuse.
Voilà.
Même si je...
Même après le concert.
Après, il y a de la voix, effectivement. Ouais. On en a pas mal débattu. Après, on est resté sur la position qu'on voulait faire vraiment de l'instrumental, que c'était ce qui nous tenait à cœur. Mais on se détend un peu sur la question, et sans mettre du chant au sens traditionnel du terme, avec un couplet, un refrain, vraiment une structure traditionnelle, on essaye de plus en plus d'inclure de la voix. Mais parler, par exemple, ou chanter, mais en mode lyrique, qui chante une mélodie sans texte, qui du coup fait plus référence à un instrument de musique qu'à une voix chantée. Ou là, on commence à mettre des chuchotements, des cris, enfin voilà. Donc on essaye de voir quelles autres interventions vocales pourraient rentrer et construire l'univers.
C'est vrai que c'est ce qu'on entendait beaucoup sur des disques un peu vintage surf, où on entend des cris, toutes sortes de borborygmes, si on peut dire.
La référence exotica aussi.
Exactement.
Comme ça, ouais.
Ouais, absolument. Et, mais c'est marrant que tu parles comme ça, qu'on t'identifie Christina automatiquement à la chanteuse du groupe, parce que c'est vrai que ça fait partie des stéréotypes quand on voit un groupe de rock débarquer qui a trois mecs et une fille. Bah, la fille, c'est forcément la chanteuse.
Ouais.
Hein. Ou la bassiste.
Ou la bassiste. La batteuse un peu. Alors, y a des groupes qui ont essayé des filles comme bassistes, ils ont eu des problèmes. Ah et bon. ils ont mis tout sur le dos de la bassiste. Ouais, c'est ça.
Téléphone.
Hein. Ouais, téléphone.
Bravo. Quoi.
Bon. Bravo. Donc, je crois que tu as été très clairvoyante, Christina, en prenant la guitare baryton. Alors, la guitare baryton, qu'est-ce que c'est que la guitare baryton? C'est ni une guitare, ni une basse.
Voilà, c'est entre les deux. Après, ça se joue quand même comme une guitare, parce que c'est juste une guitare transposée avec une corde qui est plus grave. Aujourd'hui, ça se trouve quasiment plus, parce que ça se fait de moins en moins. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, on a les 7 cordes, par exemple.
Ah oui.
Les guitaristes utilisent les cordes en métal, beaucoup, tout ça. Donc, ils ont cette corde grave en plus, mais en plus, ils ont quand même toutes les cordes de la guitare normale. Mmh. Et donc, moi, j'ai vraiment que mes 6 cordes accordées plus graves. Donc, j'ai un son d'une tessiture qui est entre la guitare et la basse.
Voilà, et qu'on entend beaucoup du côté des studios de Nashville, par exemple, sur des musiques country où on aime justement ce son bien twang, parce que ce son bien twang, eh bien, c'est finalement des mélodies plutôt jouées sur les cordes graves de la guitare, n'est-ce pas? Alors, justement, quand même quelques questions existentielles par rapport à la naissance de votre groupe. C'est alors déjà quand même la première de toutes les questions, puisque ce soir, on vous le rappelle, c'est une émission sur la surf music. Est-ce que vous pratiquez le surf?
Bien sûr que non.
J'ai essayé une fois, c'était une cata. C'est hyper dur. Non,
mais vous avez essayé où, si c'était une catastrophe?
En France, moi, c'était dans le nord.
En Bretagne,
j'étais en Bretagne, c'est ça.
Il y avait trop de vent, alors.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est la faute du vent.
C'est la faute du vent.
La faute du vent, ouais.
Ah, mais c'est hyper fatigant.
Et la planche qui devait pas être la bonne non plus.
Ouais, hein, j'avais une vieille planche.
Mais alors, justement, c'est ce qu'on a dit. Vous avez essayé de faire du surf, le sport, ça n'a pas marché. Alors, vous avez monté ce groupe. Donc, comment vous est venue l'idée saugrenue de monter tout simplement un groupe de surf dans les Alpes?
Eh ben, c'est une très bonne question. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on a fait ça.
Si. Moi, j'ai une réponse, si tu veux.
Ah, ouais, alors, ouais. Quelle est la réponse?
Bah, en fait, avant, on s'amusait quand même pas mal dans des groupes de reprises. Et on s'est rendu compte que les groupes, les musiques un peu comme ça, 60s, on faisait... comment elle s'appelle déjà cette chanson, j'ai oublié.
Wipeout.
Wipeout, effectivement. Quoi.
Wipeout, voilà, des Surferies.
Tout à fait, c'est ça. Quoi. Donc on faisait ce genre de reprise et ça marchait à mort.
Misirlou,
évidemment. Quoi. Et nous, on aimait bien aussi. Donc du coup, John, à un moment donné, s'est dit, bon, et si je reprenais mon goût pour la guitare et je me remettais un petit peu à tout ça. Donc il a trouvé des copains. Et c'était nous.
Ils étaient pas loin. Hein.
Ils étaient pas loin. Donc on jouait ensemble déjà. Et du coup, voilà. Quoi.
Bah oui, parce que faut le dire, vous êtes déjà, alors vous sévissez, on va dire, sur la scène alpine, même chambérienne si on peut dire, ouais. Vous êtes tous les trois de Chambéry, mais vous avez de multiples cordes à vos guitares si je puis dire, puisque Christina, tu as même des cordes sur ton violon.
Absolument.
Me semble-t-il.
Oui.
Et toi John, tu sais jouer d'autres choses que des cordes en métal, mais du cuivre aussi.
Du bois même.
Du bois.
Du saxophone, ouais, qui est mon premier instrument en fait, et la guitare c'est venu après, ouais. Avec la surf, enfin un peu avant la surf.
Ouais, tu faisais bien du métal avant.
Mais, ouais, j'ai eu un peu des petits égarements.
Maiden là, quand même.
Et le saxophone plutôt pour des interventions instrumentales, plutôt le jazz ou
Petit peu de jazz, un petit peu de rock aussi, un petit peu de tout, ouais. Un petit peu
de... Et le violon, Christina, alors on t'imaginerait peut-être dans un orchestre symphonique, philharmonique, ou quelque chose de beaucoup plus roots et qui sent plutôt plus le bourbon, le bluegrass?
Ouais, absolument, je suis plutôt allée là-dedans, ouais. Malgré une formation classique quand même, mais ouais. Là, j'ai un groupe de bluegrass avec le batteur qui n'est pas là d'ailleurs, qui lui est guitariste aussi, voilà. Donc qui n'est pas que batteur.
C'est le bordel, c'est le bordel.
Ah oui, vous êtes vraiment multi-instrumentiste, ouais. Vous êtes des échangistes des instruments, quoi, on ouais. Peut le dire.
Voilà.
Parce qu'il y a plein de musique à jouer et c'est passionnant, alors à chaque instrument a une autre possibilité.
Chaque instrument représente un univers. Mmh. Et toi, Franck, à la basse, est-ce que tu te contentes de la basse?
Ah,
enfin, si l'on peut dire.
Oui, bon, je fais un peu de guitare aussi, quoi. Donc voilà, ça se limite à ça, effectivement. Quoi. Enfin, guitare, basse, voilà.
Bah, c'est bien pour des touches à tout. Alors, ce que je vous propose, justement, vu qu'il y a cette actualité avec cette belle compilation qui vient de sortir, donc qui s'appelle L'Appel, tout simplement. Nous sommes le 20 juin, deux jours après le 18 juin, ça a l'air tout à fait logique. Et là, c'est l'appel, tout simplement, de la musique surf, littéralement, hein, c'est l'expression. Une compilation, c'est le volume 2 de cette magnifique compilation sortie chez un label bien indépendant français et bien impliqué dans les musiques à la fois roots et alternatives, si on peut dire, tout simplement les Productions Impossibles. Et donc, sur cette compilation, 15 groupes qui ont répondu, selon l'expression consacrée, à l'appel de la musique surf. Alors la pochette est très bien, puisque ça fait un peu appel du 18 juin, puisque on voit notre ami le général de Gaulle coiffé de sa banane et d'un collier à fleurs, et donc qui regroupe donc cette quinzaine de groupes, dont vous, les Moms I'd Like to Surf. Alors je propose qu'on écoute un extrait, votre extrait de la compilation, et l'extrait c'est Surf, Snobs, Heat, Shit.
That's it.
Voilà, donc c'est une belle expression, bien alternative, qui veut dire, voilà, si l'anglais ne vous est pas familier, ceux qui snobent le surf, bouffent de la merde, littéralement, pour ne pas dire qu'ils ont de la merde dans les oreilles, mais ça... Vu que vous écoutez Pastoral Mécanique, on sait que vous n'en avez pas dans les oreilles. Donc, on va adoucir vos oreilles, les délecter avec cet appel de la surf music et avec les Moms I'd Like to Surf, donc, qui ont ce morceau extrait de cette compilation qui vient tout juste de sortir.
Pastoral Mécanique, le Stéphane Show.
26.8 de Campus Grenoble.
Thank you.
Vous êtes bien sur les 90.8 de Campus Grenoble, une émission qui pétarde qui s'appelle Pastoral Mécanique sur Outpoussiéreuse à Country, du blues, du rock'n'roll, de la surf music. Et ce soir, plus spécialement, 100% surf music avec moi, en direct, en studio, trois des membres des Moms I'd Like to Surf. Et oui, Moms I'd Like to Surf ce soir, eh bien, ressentez-le comme un véritable credo. Est-ce que vous avez reconnu ce morceau? Tiens, une sorte de blind test pour vous les amis. Après votre magnifique morceau Surf Snobs Eat Shit, qui, rappelons-le, vient de sortir sur la compilation de chez Production Impossible, L'Appel de la Musique Surf, volume 2. Alors, ce morceau qui atteste bien, je dirais, de vos influences et qui est un parfait prolongement de votre son, si ce n'est l'inverse.
C'est pas les astronautes, non?
Eh bien, oui, on peut le dire. C'est Al Casey, en fait. Ah. Donc oui, avec les astronautes, si on peut dire. Alors, c'était sorti sous le titre Al Casey, en fait.
Ah, ouais, okay.
Donc, le guitariste lui-même. Et le morceau, non, c'est peut-être un peu plus compliqué.
Non, là, c'est trop dur, là.
Ouais, ouais. C'est The Hearse. H-E-A-R-S-E, donc en français, le corbillard, tout simplement, The Hearse.
Okay.
Donc, un de ces classiques de la musique surf. Alors, c'est vrai que, vous le voyez, c'est toujours assez difficile d'identifier comme ça des classiques de la musique surf. Parce que souvent, du côté de la Californie, sur les gros labels qui avaient su à l'époque bien commercialiser cette musique, on retrouvait souvent les mêmes musiciens qui jouaient sous différents noms. Alors c'était les musiciens qui étaient un peu de cette nébuleuse qu'on appelait la Wrecking Crew, donc ces requins de studio de Los Angeles qui jouaient sur beaucoup de morceaux de musique pop. Hein, on les a retrouvés sur des morceaux de Nancy Sinatra, même d'Elvis, même à l'époque où Elvis faisait ses films à Hollywood, ou même lorsqu'il a fait son retour à la télé en 68, et puis entre eux, ils déliraient pour enregistrer des morceaux instrumentaux. Ouais. Et on retrouvait, alors il me semble que cet album a été produit par Lee Hazlewood, donc celui-là même qui avait quand même produit les premiers Dwayne Eddy, qui a peut-être inventé lui-même la reverb avant que Fender 58, ne l'invente. Et justement, Lee Hazlewood, qui avait eu dans son écurie des gens comme Phil Spector, par exemple, ou encore Jack Nitzsche.
Ouais.
Hein,
ouais.
Et je crois que ça, Jack Nitzsche, ça vous dit quelque chose aussi.
L'album Surf de Jack Nitzsche, il est super bien, quoi.
Alors justement, qu'est-ce qui vous attire, les amis, dans cette surf music? Et qu'est-ce qui vous a mené là, alors au-delà de vos relations entre vous de musiciens, ou plus, mais ça reste dans votre intimité, mais qu'est-ce qui vous attire justement dans cette musique, et que vous ne trouvez pas forcément ailleurs, et qui semble être votre point commun?
Moi j'ai des trucs à dire.
Mais je t'en prie.
Ouais.
Moi aussi. Vas-y.
Moi ce que je trouve vraiment bien dans cette musique, c'est les possibilités qu'elle offre en fait. Étant donné que c'est instrumental, du coup on s'affranchit vraiment des structures traditionnelles qu'on connaît bien et qui sont toujours les mêmes.
Tout à fait.
Donc là on peut vraiment aller dans de l'imagerie, de créer des univers, de créer des images qui viennent dans la tête des gens, qui se retrouvent dans d'autres contrées, dans d'autres époques. Enfin, on a vraiment la carte blanche pour imaginer tout ce qu'on veut. Et puis la possibilité d'incorporer plein de références stylistiques à d'autres genres musicaux, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et c'est ça qui est hyper beau dans la musique après la vague des années 60 qui a eu lieu. Tout ce qui est arrivé derrière, plus tard, dans tous les pays mondiaux, en fait, qui ont pioché même des fois avec leurs références de leur pays et de leur culture, et qui ont apporté ça dans la surf music, toujours avec quand même ces codes, certains codes qui restent et qui marquent cette étiquette surf music, mais qui sont allés bien au-delà, bien au-delà de ça, quoi.
Franck, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, par rapport à la question de ce qui nous a attiré là-dedans, c'est vrai que l'absence de chant, de la contrainte du chant, permet d'explorer complètement d'autres choses en fin de compte. Ça, on se sert de cette base, la surf music, du style surf music, pour explorer d'autres types de choses, et sans avoir la contrainte du chant. Voilà, on va appeler ça une contrainte, parce que justement, ça impose des standards, des manières de se représenter la musique, parce qu'il y a un chant auquel le public s'identifie, hein, pourtant. Et nous, on se dit, assumons l'instrumental, parce qu'on aime beaucoup la musique de film aussi. On aime beaucoup les musiques orchestrales. Du coup, de fait, c'est un petit peu le genre qui nous convient, quoi. Même si là, de temps en temps, on essaye d'amener justement des influences cinématographiques dans les nouvelles compositions, on essaye d'aller explorer ce genre de trucs comme ça, même si on l'avait déjà fait dans l'album en l'occurrence, mais là, on va accentuer un petit peu cette dimension-là pour le plaisir, quoi.
Et toi, John?
Ouais, bah c'est un peu tout ça. Moi j'aime bien, c'est aussi le travail qui est fait sur le son en général. Voilà, le son de la guitare à l'époque où il y avait ce truc-là de rechercher le son de la vague, tous ces trucs-là de voilà, l'arrivée de la réverb, l'arrivée de techniques un peu guitaristiques, le palm mute, c'est tous ces trucs-là. Enfin, c'est pas l'arrivée du palm mute, mais voilà, le fait d'utiliser un peu plein de techniques pour vraiment chercher des choses sur le son en particulier, et que nous on essaye de continuer un peu en allant un peu plus loin que le son de la surf, en cherchant d'autres trucs. Comme tu disais tout à l'heure, que ça a débouché après sur le psychédélique, voilà, sans dire qu'on fait du psychédélique, mais de continuer ce travail-là un peu sur quel type de son on peut avoir avec une guitare.
Disons que ça a beaucoup coïncidé. Alors tu parlais de la technique de palm mute. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le palm mute, c'est une technique pour étouffer les cordes de la guitare avec sa main pendant qu'on joue dessus, qui fait une sorte de staccato très sec en fait. Donc c'est ce qu'on appelle le palm mute et qui est très caractéristique de la surf music.
Qui fait justement ressortir ce fameux son de réverb dont tu parlais.
Exactement, puisque on l'a vu avec l'arrivée de la surf music coïncide avec les technologies qui sont arrivées sur les amplis de guitare, plus particulièrement les amplis de guitare et de basse, l'arrivée de la réverb, la fameuse réverb à ressort, ce qui donne cet effet, on va dire, cathédral à la musique, et puis une réverb bien mouillée, comme on dit, hein, pour qu'elle soit bonne. Et puis le trémolo aussi. Donc c'est à cette époque que sont arrivés tous ces effets, et que les guitaristes de surf, eux, eh bien on a su utiliser, on peut le dire, plein pot et sans aucune retenue, sans aucune limite, et c'est ce qui a donné donc cette identité à la musique surf. Et on l'a vu, enfin vous l'avez évoqué aussi, il y a cette manière d'emprunter d'autres codes harmoniques à d'autres styles de musique d'autres contrées, pas forcément occidentales. On sait que Dick Dale en usait bien volontiers, dû peut-être à ses origines en partie est-européenne ou méditerranéenne ou libanaise en fait, où il aimait bien incorporer ses mélodies un peu exotiques. Et on parlait d'exotica tout à l'heure avec ses influences qui sont venues emprunter en même temps ces technologies de la guitare, et puis ces techniques de la batterie aussi, avec cette manière, avec les gros toms pour bien imiter les grandes cymbales pour bien imiter les vagues, et donc ce qui évoque bien évidemment les musiques de films dont vous parliez, puisque on le sait que la surf music, on la retrouve dans les films d'Ennio Morricone, enfin les films de Sergio Leone mis en musique par Ennio Morricone, et ça, je pense que tous les musiciens de surf sont forcément influencés par les musiques d'Ennio Morricone.
C'est tout à fait, ouais. C'est clair.
D'ailleurs, lorsque vous utilisez, alors le terme de surf music, pour les gens, ça peut paraître abstrait. Si vous parlez déjà un peu de Western Spaghetti, de la musique de Western Spaghetti, c'est un peu plus parlant. Alors on est plus éloigné des plages californiennes, on se retrouve plus dans le désert d'Arizona, mais l'esprit instrumental est le même. Alors justement, sur votre dernier album, sur Beach Control to Major Knob en bon anglais, il y a un morceau qui est la seule reprise de l'album, qui est un hommage à un compositeur français de musique de film, monsieur Raymond Lefebvre, qui lui,
s'il vous plaît.
Voilà, exactement, alors qui est un peu dans la veine de l'époque, à cette époque-là, des Michel Magne, par exemple, qu'on entendait sur beaucoup de musique de film, genre Les Tontons Flingueurs, Ne nous fâchons pas, même Les Fantomas, je crois. On retrouve cette musique un peu pop, 60s, instrumentale, mélangée avec du jazz. Et vous avez choisi donc Raymond Lefebvre dans cette même veine, avec un film bien particulier, lequel ?
Joe, la française.
Voilà, c'est pas Joe, cowboy Joe, au fin fond de l'Arizona. Non, c'est Joe.
C'est Joe. Le film avec Louis de Funès. Ouais.
Voilà, Joe, le film avec Louis de Funès, avec Claude Jeanzac, et puis il y avait qui encore ?
Galabru,
Bernard Blier, non ?
Bernard Blier, évidemment, ouais, bien sûr.
Bref, toute la crème des comédiens de l'époque qui eux-mêmes savaient être sans limite dans leur dialogue, ou en tout cas dans leur jeu d'acteur. Alors, pourquoi avoir choisi Joe en particulier ?
Alors pourquoi parce que c'est, déjà c'est un super film. C'est le meilleur de Louis de Funès.
Et ben ça, ça c'est non, un bon motif.
En plus de ça, bah, il se trouve que le cette musique là, nous on trouvait qu'elle sonnait vraiment hyper surf déjà de base dans l'original. Enfin, il n'y a pas fallu faire grand chose pour en faire de la surf en fait. Il y a déjà ce truc là de guitare. Enfin, ça dépend de la version. Il y a plusieurs versions.
Ouais, mais, exactement, ouais.
Mais voilà, il y a déjà ce son pour moi de voilà qui est très surf dans ce morceau-là de Raymond Lefebvre, plus que dans les autres.
Ouais. Non, puis il y a aussi une autre chose, c'est que John adore ce genre de musique aussi, quoi, cette musique orchestrale des années 60 française.
Ouais, oui. Exactement.
Voilà, dans ce côté un petit peu, comment dire, variété française, mais très bien orchestrée.
Exactement.
Des arrangements
très sophistiqués, ouais. En même temps très pop, parce qu'il c'est fallait ça. Être accessible bah, au public populaire des cinémas, tout simplement.
Ah ouais.
Eh bien, bah, je vous propose eh bien, qu'on retourne dans ces 60s. Alors, on y est toujours un peu avec la surf music, même si on aime plutôt la définition d'intemporalité, justement. Ce n'est pas les 60s, c'est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est que ça a quand même survécu entre-temps. Donc, eh bien, on écoute tout de suite cet hommage à ce film de Jean Giraud avec Louis de Funès et Claude Jeanzac, ce Joe, donc une musique de Raymond Lefebvre, réinterprétée par ceux qui sont avec nous ce soir en studio dans Pastoral Mécanique sur les 90.8 de Campus Grenoble, une émission Pastoral Mécanique qui est également diffusée sur Freies Radio Wüstewelle ce soir, donc avec les Moms I'd Like to Surf, comme le nom de leur groupe l'indique, une émission 100% surf.
Vous allez écrire 100 fois Pastoral Mécanique.
We'll be right back.
Morale mécanique.
Lee Hazelwood et ses Woodchucks, et bien ça, c'est ce morceau Movin' que vous venez de découvrir, donc qui est sorti assez récemment sur un album que l'on a déterré d'archives de studio quelque part à Los Angeles, et c'est ce qu'on a fait derrière. Alors dernièrement, il y a eu beaucoup de travaux d'archéologues qui ont été faits autour des enregistrements de Lee Hazelwood et de son époque Lee Hazelwood Industries, où justement on avait retrouvé ces morceaux qui avaient été enregistrés sous le nom de groupe des Woodchucks. Pendant longtemps on n'a pas su qui c'était. On savait que c'était une allusion au groupe de filles dont faisait partie la petite amie de Lee Hazelwood, et les Surf Bunnies en tout cas. Et c'est pour ça que l'album s'intitule Searching for Surf Bunnies. Donc ils cherchaient les Surf Bunnies, donc ce groupe de filles. Peut-être un groupe chimérique, on n'en sait rien. En tout cas, on a découvert récemment que ces musiciens étaient probablement Al Casey, entre autres, qu'on a entendu tout à l'heure, et qui révèle tout simplement tout le travail qu'ils pouvaient faire en studio, qu'ils laissaient éventuellement de côté parce que c'était pas forcément le travail pour lequel ils étaient payés, et qu'ils faisaient toujours entre deux sessions avec toujours ce son finalement bien californien.
Ah bon.
Lee Hazelwood. Et justement, lui qui a inventé, on l'a évoqué tout à l'heure, cette reverb avant la reverb dans les amplis de guitare, puisque lui, il utilisait carrément des citernes à grains, notamment sur les premiers enregistrements de Dwayne Eddy. Donc là, on parle du rock instrumental pré-surf music dans les années 57-58. Vous, justement, alors vous, que vous êtes plutôt dans une musique, on va dire, étiquetée vintage, même si aujourd'hui, on perd peut-être cette étiquette et que les jeunes générations finalement en font abstraction, ce qui est d'autant mieux puisque ça souligne, on l'a dit encore une fois, l'intemporalité de cette musique. Vous, est-ce que justement en studio vous êtes plutôt des accros des vieilles technologies d'ampli à lampe avec des réverbes à ressort, ou au contraire vous allez essayer d'utiliser toutes les technologies modernes qui peuvent être mises à disposition à travers le numérique et qui peuvent tout à fait singer, si l'on peut utiliser le terme, ce vieux son des 60s?
Et c'est un peu des deux en fait. C'est un peu des deux parce que on a quand même des amplis à lampe, on a quand même des réverbères à ressort.
Quand même, hein, voilà. Les amplis qui cassent le dos quand on les transporte.
Exactement. Mais par contre, on s'interdit pas grand chose en fait sur le son et puis sur les méthodes en général. On n'enregistre pas à l'ancienne sur des bandes, des choses comme ça. On enregistre dans des ordinateurs comme font les gens maintenant. Avec des micros qui peuvent être vintage ou pas vintage, il y a un peu de tout en fait. Et puis même sur les sons sur les instruments, on s'interdit pas la disto, des choses comme ça, de l'overdrive sur la guitare ou des des choses qui pouvaient être interdites par les intégristes de la surf musique.
Alors, qui serait interdite vu d'aujourd'hui si on considère la musique de manière traditionnelle, mais c'est vrai que si on considère qu'à l'époque, les groupes de surf, c'était finalement des groupes de jeunes, ouais, ils utilisaient finalement toute la technologie qui leur était à disposition à l'époque.
Ouais. Bah, c'est ça, ouais.
Donc, si la fuzz, par exemple, ou si plein d'autres effets qui sont arrivés plus tard avaient déjà existé, on peut imaginer
on
qu'ils
peut
les auraient
qu'ils seraient servis,
très ouais, certainement expérimentés.
Ouais. Hein. Ouais. C'est ce que tu disais tout à l'heure, hein. C'est que la surf musique aux États-Unis, ça dure 4 ans hein, en fait en tout. Et la transition se fait avec l'apparition des nouvelles technologies et ça bascule vers le psychédélique.
Vers le psychédélique, voilà, exactement.
Et la plupart, beaucoup de guitaristes qui jeunes ont fait de la surf, oui, sont tournés soit vers le psyché ou tout doucement vers le métal aussi. Le heavy metal qui apparaissait, Ritchie Blackmore, je pense notamment.
Exactement. Quoi.
Il y a plein comme ça qui, dès qu'ils ont découvert de nouvelles technologies, ont amené quelque chose de différent en grandissant, en sortant du style aussi. Quoi.
Bah là, on peut faire allusion par exemple à Frank Zappa, ouais, qui lui, littéralement, avait commencé comme surfeur, si oh, on peut dire, en studio.
Et ah, c'est plus rhythm and blues quand
il
même.
Pas
au
d'accord.
Début,
hein. Ouais, je suis pas d'accord.
Ouais, ouais, pas d'accord. Il n'a pas fait beaucoup de surf musique, mais il en a fait, on est d'accord.
Mais il en a fait quand même. Ouais. Son studio, on a vu passer quelques-uns quand même.
Peut-être, ouais. Hein, ouais.
Et puis, bah, c'est vrai qu'il a basculé vers le psychédélique, voire même vers le rock plus dur.
Très
et
rapidement.
C'est vrai que quand on évoque les guitaristes de métal, alors même plus spécifiquement les shredders, donc ouais, ceux qui, ouais, qui justement font du staccato à la guitare, mmh, il y en a beaucoup dans les années 80 qui ont concédé à avoir pompé ça sur Dick Dale,
ouais,
finalement.
Ouais, ouais. Hein, complètement. Non, mais il y a beaucoup de techniques inventées dans la guitare surf, ça c'est sûr et certain, quoi. Autour, aussi bien au niveau du matériel que des techniques guitaristiques qui ont évolué bien sûr derrière, mais il y a quand même quelque chose de, lié à ce premier style instrumental où on découvre des choses et on met en œuvre, on cherche quoi, des trucs. Quoi. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette musique instrumentale, c'est que c'est on explore quoi. Et surtout
la
quand
recherche,
on,
ouais,
ouais. Quand on regarde le style, quand il disparaît, il réapparaît dans les années 70, dans les années 90, etc., on voit les évolutions et surtout la mondialisation de la surf musique, c'est comme disait Jojo tout à l'heure, c'est intéressant quoi.
Bah oui, et puis notamment avec la résurgence de la surf musique au travers des films de Tarantino et voilà, de Pulp Fiction en particulier, on sait que la carrière de Dick Dale a trouvé une seconde jeunesse grâce à Tarantino, oui, hein, plus ou moins directement.
Puis ouais, Taxi.
Oui, aussi,
il y a eu,
exactement.
Il y a eu des déclinaisons par décennie.
Exactement, exactement.
Ça dépend à qui tu t'adresses, ouais, il faut citer le bon film.
Exactement, exactement. Et puis, bah, faut pas oublier qu'à l'époque, la surf music, c'était quelque chose qui était tellement frénétique, mais même sur la scène, puisqu'il y a beaucoup de groupes qui apparaissaient et qui disparaissaient quasiment aussi instantanément. Ouais. On ne procédait à l'époque que par single. Ouais. Hein, on vendait une poignée de 45 tours, enfin on en faisait un ou deux, trois ou quatre ou plus si on avait un peu plus de chance, où on faisait carrière, mais c'était très souvent des groupes très éphémères.
Ouais. Alors, si je peux rajouter un truc là-dessus, c'est que je trouve très intéressant de voir que cette fin des années 50, début 60, ça correspond à tous les baby-boomers états-uniens qui ont les moyens d'acheter de la guitare, et donc c'est plein d'adolescents qui se mettent à la musique et qui trouvent les possibilités d'enregistrer, d'où la profusion. Enfin, je crois qu'ils, je suis pas très sûr du chiffre, mais je crois qu'il y avait pratiquement 100 000 groupes, enfin peut-être pas 100 000, je sais plus le chiffre, mais beaucoup de groupes aux États-Unis qui sont apparus à cette époque-là, d'où la production pléthorique de ces groupes qui n'ont fait qu'un disque des fois, qu'on retrouve maintenant sur YouTube. En l'occurrence,
exactement.
Y a des mines d'or des fois.
Absolument, ouais. Et puis c'est vrai que des groupes de surf, il n'y en avait pas qu'en Californie. Il y en ouais, avait partout. Il y en avait sur la côte Est. Ouais. Il y en avait au fin fond du Minnesota. Il y en avait au fin fond du Missouri aussi. Bref, ouais, c'était tout simplement la vague de l'époque. Ça participait, on va dire, à la mondialisation de la musique. Et puis bah, il y en a eu aussi en France à cette époque-là.
Bien sûr, hein. Bien sûr,
ouais. Il y en a eu quand même un certain nombre aussi à cette époque. Et puis on sait que la musique, quelque part, rock'n'roll en France qui est apparue au début des années 60, était instrumentalement peut-être plus influencé par la musique surf américaine que par le rockabilly de Memphis au ouais, niveau instrumental et au niveau des effets finalement.
Je pense aux Shadows par exemple aussi, qui est un groupe anglais.
Exactement.
On n'est pas dans les techniques de la surf musique, mais on est dans la musique instrumentale.
On est dans le rock instrumental, voilà, exactement.
Qui a influencé beaucoup de groupes en France, très intéressant, moi je trouve. Les Galaxy par exemple, les guitares et tout ça, c'est vraiment des groupes lunaires à écouter maintenant parce qu'ils font des recherches d'effets sonores qui sont passionnantes, moi je trouve.
Exactement. Alors justement, on a vu que vous aimez bien utiliser toutes les technologies. Alors les technologies déjà séminales, celles qui ont permis justement l'émergence de la surf music et puis les assaisonner avec des technologies plus modernes. Est-ce que vous sortez vos disques également en vinyle ou uniquement en CD? Quelle est votre démarche de ce point de vue discographique?
Vas-y. C'est moi?
Ouais, c'est toi.
Et allez, bah, John,
alors,
John.
Alors, l'album est sorti en vinyle. C'était le premier qu'on a sorti en vinyle. Les EP d'avant, ils étaient sortis en CD. Et puis celui-là, on a choisi de le sortir en vinyle parce qu'il y a une petite demande quand même dans le milieu un peu surf, un peu,
exactement,
un peu vintage, voilà, de cet objet-là. Puis c'est vrai que c'est un bel objet par rapport à un CD. Donc comme on a, voilà, on a un peu travaillé dessus, ça faisait plaisir aussi de sortir un bel objet avec, une image en grand sur une belle pochette de vinyle.
Eh bien, je voudrais... Alors là, on va sortir un peu de l'instrumental pur, mais je vais vous proposer un groupe qui vous a quand même, je crois, également beaucoup influencé. Et puis ça, c'est un clin d'œil aux guitaristes féminines, hein, puisque bien, je vous propose un morceau des Cramps, tout simplement, avec l'incontournable Poison Ivy, parce que si dans les groupes français, les filles à la basse ont l'air de poser des problèmes, alors ça, c'est les mecs du groupe qui le disent, hein, ça, c'est leur version. En tout cas, dans les Cramps, c'est elle qui menait la danse au niveau de la production, des arrangements, de la distribution, du management, tout ce qu'on veut. Et puis, elle ne chantait pas, c'était la guitariste, la lead guitariste du groupe. Mais bah, je vous propose exceptionnellement un morceau chanté, mais pas par le chanteur du groupe, Lux Interior, mais par elle-même, Poison Ivy. Je ne sais pas si vous le connaissez, ça avait été enregistré à l'époque de A Date with Elvis, donc au milieu des années 80, donc c'était un album qui sonnait bien surf aussi, hein, de cette époque des Cramps, c'était un peu du surf chanté si on peut dire, et je vous propose ce morceau qui s'appelle Get Off the Road, donc qui était une des outtakes, comme on dit, de ces sessions de A Date with Elvis, ou sur la pochette, bah d'ailleurs sur beaucoup de pochettes des Cramps, on voit Poison Ivy en vedette, tout simplement avec une Bible à la main et puis des cornes de diable aussi également, pour rendre leur hommage à leur manière au King Elvis, les Cramps avec Get Off the Road, avec ce son bien surf, toujours, on l'a dit, une émission 100% surf ce soir dans Pastoral Mécanique.
Hey, who the hell do they think they are?
Ah, they're just a bunch of girls. Tonight, get off the road.
Sort de la route, c'est ce qu'elle dit notre Poison Ivy, son ou à ses partenaires Get Out of the Road, et ça c'était donc un extrait, une outtake comme on dit, une prise qui n'avait pas été acceptée à l'élaboration de l'album qui a été retrouvé après. Donc cet album A Date with Elvis, un album vraiment très important dans la discographie des Cramps et très important pour les fans de musique vintage, un peu garage, un peu surf, parce que eux ils étaient très attachés justement à ce son très surf, et il le disait lui-même, ils étaient plus influencés par Link Wray ou Dwayne Eddy que par le pur rock'n'roll de Chuck Berry par exemple, et par ces sons hyper réverbérés, les amis. Hein,
ouais, complètement, ouais.
Alors ben les amis, on arrive lentement à la fin de cette émission, une heure ça passe vite, hein. Faudra qu'on en fasse une deuxième ensemble.
Ouais,
hein.
Si tu veux,
ça fait plaisir. Bah, oui, bah, d'ailleurs on va pas se quitter comme ça quand même, une question toute bête, alors je sais pas si elle est piège ou pas, on va voir, on sait que vous venez de Chambéry, vous êtes le seul groupe de surf des environs, alors d'après même cette compilation, donc l'appel de la musique surf, vous êtes un des rares groupes de surf dans la région. Alors il y a les Cannibal Mosquitoes, ouais, du côté de Valence, il y a les Robins aussi, ouais, du côté de Genève.
Il y a les profs de skids, hein, aussi ici sur Grenoble.
D'accord, également, bah, hein, ouais, ça permet d'élargir un peu le champ des instrumentistes de surf. On a vu, c'était bizarre, sur cette carte de France des groupes de surf, il n'y en avait pas sur l'arc atlantique, ouais, hein, ouais, à part si un collègue à Bordeaux.
L'OCA, ouais.
Voilà, mais en espérant vous voir peut-être sur l'arc atlantique, ouais, lorsque vous aurez une actualité scénique bientôt.
Bientôt, ouais, effectivement. On va monter dans le nord de la France, mais pas sur l'Atlantique, mais tant pis. Mer du Nord.
Voilà, là où il peut y avoir des vagues, où il peut y avoir du vent, n'est-ce pas ?
Exactement.
D'ailleurs, bah, on l'a dit, vous êtes de Chambéry, vous êtes plutôt chartreuse ou bauge ?
Bah, pour être précis, il y en a deux de Grenoble et deux à Chambéry, quoi. Donc, d'accord. Voilà, donc en gros, c'est chartreuse au milieu, quoi, on va dire.
Ouais. Je suis plutôt avant pays savoyard.
Ah, tout fort.
D'accord. Vous n'êtes pas belle donne non plus, non ?
Quoi ?
D'accord, très bien. Eh bien, c'était une très bonne réponse. Pourquoi ? Parce que vous savez, la chartreuse, c'est quoi ? C'est une couleur. C'est la couleur de la liqueur.
Chartreuse.
Et on sait que Tarantino en fait l'apologie dans un de ses films, Boulevard de la Mort.
Ah, oui.
Et puis, la chartreuse, c'est la couleur aussi de la guitare de Dick Dale.
Eh oui.
Son modèle signature, officiellement, chez Fender, c'est la couleur chartreuse.
Green chartreuse.
Voilà. C'est ni jaune ni vert, un peu entre les deux, surtout bien pailleté, comme la couleur de cette liqueur que l'on adore. Il est effectivement 21h, c'est une heure de grande écoute.
C'est la bonne liqueur.
Et nous faisons des publicités, bien évidemment, non autorisées, parce que c'est rock'n'roll, tout simplement. Hein. Bon, bah, les amis, on va se quitter sur un morceau qui est un parfait morceau de fin. En tout cas, c'est pourvu que les gentils gagnent.
Hein, ah, bah, on
puisque
espère.
Puisqu'on est tous gentils, on va gagner ainsi. En tout cas, eh bien, c'était un plaisir de vous avoir en studio. Merci, les Moms I'd Like to Surf. Merci Christina. Merci John. Merci Franck.
Merci Steph.
Et puis, au plaisir de vous revoir bientôt sur une scène. Et on le répète, donc, l'actualité, c'est cette compilation, l'appel de la music surf, de la surf music. Pardon, volume 2, avec le général de Gaulle et sa banane en couverture, sorti chez Production Impossible, donc, où l'on retrouve donc les Moms I'd Like to Surf. On se retrouve donc, eh bien, la semaine prochaine, même heure, même fréquence, même punition. D'ici là, eh bien, conduisez prudemment, ne buvez pas trop, embrassez votre femme ou votre mari, et surtout écoutez beaucoup de musique qui pétarade. Qu'Elvis vous bénisse, que Johnny Cash point ne vous lâche, et que Poison Ivy, longtemps vous prête vie.
Oh.
Ainsi soit-il.
Pastoral Mechanic, the City Folk Show.
All right, Elvis has left the building. I've told you absolutely straight up to this point, you know that he has left the building. He left the stage and went out the back with the policeman, and he is now gone from the building. Elvis receives no money whatsoever for his performance here tonight.